La corruption est un phénomène qui affecte une grande partie de la Roumanie et surtout les institutions étatiques. Ça concerne des hommes politiques, des fonctionnaires, des hommes d'affaires.
La Roumanie a beaucoup progressé, a beaucoup changé. C'est un pays très développé. On ne veut plus que cette classe politique qui, par ses décrets, veut nous ramener en arrière. On veut autre chose.
Ces dernières années, nous avons fait comparaître plus de 1200 personnes inculpées de corruption à plus ou moins haut niveau. Cela montre le niveau de corruption en Roumanie.
C'est l'histoire pour l'instant très belle d'une société civile qui se réveille un matin avec la rage de se débarrasser enfin du fléau de la corruption qui gangrène depuis avant même la chute de Ceaușescu en 89 tout l'appareil politique et administratif du pays. Depuis le 1er février dernier, par moins 10 degrés, les Roumains manifestent chaque soir pour vilipender une clique qu'ils ont élue à peine un mois et demi avant. Décembre 2016, c'est un triomphe pour le Parti social-démocrate, 45% des voix au Parlement et pour son homme fort, Liviu Dragnea, incapable pourtant de devenir Premier ministre, lui qui est condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir bourré les urnes lors d'un précédent référendum et qui fait l'objet d'un deuxième procès qui s'est ouvert le 31 janvier dernier. Cette même nuit du 31 janvier, son homme de paille, le Premier ministre fantoche, fait passer en catimini l'ordonnance de la honte, un texte qui exonère de peine les coupables de corruption si leur délit ne dépasse pas 44 000 euros. Une chance, les emplois fictifs qui valent à Dragnea, son deuxième procès, n'aurait coûté que 24 000 euros à l'État roumain, de quoi échapper donc à la prison. Serait aussi sorti probablement de prison l'homme le plus riche de Roumanie, Dan Voiculescu, condamné lui à 10 ans de réclusion pour la privatisation frauduleuse d'un institut de recherche. Manque à gagner cette fois 60 millions pour l'État, mais une autre loi en préparation aurait pu jouer, elle devait diviser par deux les peines de prison pour les plus de 60 ans. Seulement la population s'est révoltée, les manifestations ont eu raison du décret du 31 janvier. Il faut dire que depuis des années, la Roumanie s'est dotée du parquet anticorruption le plus efficace d'Europe. À sa tête, une procureure qui a fait condamner l'an passé 870 personnes, dont 3 ministres, 11 députés, 47 maires, 7 dirigeants d'hôpitaux n'en jetaient plus. Corruption en Roumanie, quand le peuple entre en résistance, c'est un reportage signé Valérie Crova. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir avec Catherine Durandin, qui est historienne. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes aussi professeure émérite à Langzou, à l'INALCO, spécialiste bien sûr de la Roumanie. Je vais citer votre dernier ouvrage qui ne porte pas directement sur la Roumanie, qui s'intitule « La guerre froide » aux presses universitaires de France. Mais vous préparez aussi un livre qui sera « Ma Roumanie communiste », c'est bien ça?
Absolument, « Ma Roumanie communiste », oui. Depuis les années où j'ai découvert, au début des années 67.
Et puis nous sommes aussi ce soir avec Vivien Pertuzot. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Pertuzot, on doit le dire à la française et pas à la roumaine. Vous êtes l'ancien responsable de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Bruxelles. Vous êtes toujours chercheur à l'IFRI et spécialiste des politiques européennes. Et notamment vous avez publié une étude sur 28 États membres, publiée en 2016, qui s'appelle « The EU in the fog », donc l'Union européenne dans le brouillard. Nous sommes avec Valérie Crova. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
En février dernier, dans tous nos journaux sur France Culture, on a raconté ces manifestations monstres en Roumanie. 1,5 million de personnes dans les rues à Bucarest. Depuis, on sait que le décret qui visait à alléger la lutte contre la corruption a été abrogé. Mais que se passe-t-il dans la rue, justement, Valérie?
Alors, les grandes manifestations continuent, mais elles se déroulent surtout le week-end. Il y en a une qui est d'ailleurs prévue ce dimanche à Bucarest. Le reste de la semaine, une sorte de permanence est assurée sur la place de la Victoire. Les gens se passent le mot sur les réseaux sociaux pour venir un jour, d'autres le lendemain, de façon à ce qu'il y ait toujours au moins 200 à 300 manifestants pour soutenir la lutte contre la corruption et demander la démission du gouvernement.
On écoute votre reportage.
C'est devenu un peu un rituel pour vous d'aller sur cette place?
Je dirais que le mot rituel me gêne un peu parce que quand il s'agit de défendre des valeurs éthiques, des valeurs humaines, un rituel, pour moi, c'est pas un rituel, c'est plutôt une sorte de dette morale. C'est
une dette envers qui?
Envers nous-mêmes, tout d'abord. Et puis, envers notre avenir ici.
Est-ce que vous avez l'impression d'être rentré en résistance depuis quelques semaines?
Bah, d'abord, on résiste au froid. Donc ça c'est... Ensuite, Oui, il y a une forme de résistance quand il s'agit de défendre des valeurs humaines, des valeurs, je dirais, éthiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup le slogan de résiste, parce qu'effectivement, c'est ça. Je vois que cette jeune Roumanie, j'aime bien l'appeler comme ça, elle grandit. Elle grandit, elle commence à être consciente des valeurs qu'elle veut défendre, des valeurs qui la constituent et qui est prête à les défendre aussi. Je vois une sorte de maturité. Je peux remarquer ça, j'avoue que je suis très sensible à cette question. Je suis heureuse de la voir, je la vis pleinement.
Ce réveil citoyen dont parle Laura a gagné en l'espace de quelques jours toute la Roumanie. La confiance entre une grande partie de la population et ses dirigeants s'est définitivement brisée. Une fracture profonde que rien ni personne ne semble pouvoir réparer.
Je voudrais juste savoir ce que représente pour vous la corruption dans votre pays.
Elle est omniprésente. On ne peut pas y échapper. C'est la grande corruption qui nous dévore.
La corruption est un phénomène qui affecte une grande partie de la Roumanie et surtout les institutions étatiques. Ça concerne des hommes politiques, des fonctionnaires, des hommes d'affaires. Cette corruption maintient le pays dans un état qui nous empêche de nous développer et nous laisse derrière d'autres pays.
Vous avez quel âge?
J'ai 42 ans.
Vous êtes jamais quitté, vous n'avez jamais quitté la Roumanie?
Non, je ne suis pas parti dans un autre pays. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté le pays. Moi, je veux rester. Je veux que mon enfant grandisse dans un pays normal.
Est-ce que vous vous sentez porté par un souffle nouveau?
Oui, parce que il paraît que c'est la plus grande manifestation dans les rues depuis 89-90.
Vous avez l'impression de vivre une petite révolution?
Non, en fait, mais c'est une révolution blanche. C'est comme ça qu'on l'a appelée, parce que c'est tout sans incident, les gens sont tranquilles. On avait des pancartes avec des blagues et tout ça, beaucoup d'humour et d'ironie. Ouais.
Donc demain, si le gouvernement ne démissionne pas, comment ça va se passer?
Il y a peu de chances, très peu de chances qu'il démissionne, mais on sera ici, de nouveau.
Tous les soirs, devant le siège du gouvernement, place de la Victoire, les manifestants entonnent l'hymne national roumain, qui avait été interdit sous la dictature communiste. Alexandru Gusi enseigne les sciences politiques à l'Université de Bucarest. Il observe les événements dans son pays, devenu une sorte de grand laboratoire de la démocratie.
L'idée est qu'en Roumanie, quand on a des centaines de milliers de gens dans la rue, on perd la légitimité, parce que cette légitimité n'est pas seulement une légitimité électorale, elle est quand même liée à ces débuts de la démocratie roumaine qui a ses origines en décembre 89. Et comme il n'y a jamais eu depuis décembre 89 des manifestations de cette ampleur, on peut bien s'attendre qu'un gouvernement qui a perdu la crédibilité par rapport non seulement à cette rue qu'on voit aujourd'hui, mais aussi par rapport à une grande partie de la population, va un jour ou un autre, pas nécessairement demain, mais dans un futur assez proche, va devoir donner sa démission.
En quoi ce mouvement est inédit?
La dimension inédite est justement le fait que le nombre de gens est tout à fait extraordinaire pour la société roumaine qui n'est pas une société où on se mobilise facilement pour sortir dans la rue. Et comme vous le savez, il y a ces manifestations qui ne sont pas seulement concentrées à Bucarest, mais il y a dans des grandes villes, notamment universitaires d'ailleurs, comme Timișoara, comme Cluj, comme Iași, ces grandes villes où il y a parfois même des dizaines de milliers de gens dans la rue, ce qui est tout à fait inédit après 89.
On parle de printemps roumain, à l'instar des printemps arabes, de révolution. J'ai entendu tout à l'heure même quelqu'un qui parlait de révolution de velours. Comment vous le qualifieriez, vous, ce mouvement-là ?
Je trouve d'abord que ce type d'attitude témoigne de la méconnaissance du contexte roumain. Certainement, la démocratie roumaine est une démocratie imparfaite, mais le régime, il est très loin des exemples que vous venez de citer, ou même d'autres exemples de pays autoritaires. Ce qui est vrai, c'est le fait que la Roumanie est intégrée dans l'Union européenne. On a considéré que déjà, la Roumanie avait toutes les institutions nécessaires pour avoir un régime démocratique. Et on s'est concentré seulement sur les institutions de l'État de droit, ce qui a été très bon. Et la lutte contre la corruption, c'est le résultat direct de l'influence d'un mécanisme de la Commission européenne. Mais on n'a pas eu la continuation de la démocratisation, et le fait que les gens sont dans la rue est lié directement à un déficit démocratique si on le compare avec les attentes des gens. Du point de vue de la mentalité, il faut bien observer le fait que les Roumains sont très pro-occidentaux depuis 90, en tout cas depuis 96. L'attachement des Roumains aux institutions européennes a été certainement parmi les plus forts de tous les nouveaux pays rentrants. Et cet attachement, tous les sondages le montrent, reste très important. Et vous allez voir dans la foule aussi des drapeaux européens. Donc l'orientation pro-européenne, en général pro-occidentale, est un élément très important de toutes les générations qui ont protesté depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Et cela a été aussi le cas du point de vue des forces politiques qui ont essayé d'utiliser et de se légitimer en tant que parti politique ou dirigeant étatique qui ont eu un rôle dans l'intégration du pays dans ses institutions euro-atlantiques.
Casa Sorin Ovidiu Vântu este cel mai puternic om de afaceri.
On se dirige vers la maison de Sorin Ovidiu Vântu. C'est peut-être l'homme le plus puissant que la Roumanie ait jamais connu, qui a fait des malversations financières énormes en créant des fonds pyramidales et en ouvrant un certain nombre de banques pour véhiculer l'argent qu'il avait pris à la population. En plus, il a été très influent auprès des hommes politiques. Il a pu vraiment mettre son empreinte sur la vie politique roumaine. Et en ce moment, ce personnage se trouve en prison.
Le quartier d'Orobanci de Bucarest contraste avec les larges avenues de la capitale roumaine et ses bâtiments monumentaux construits sous Ceausescu. Ici, les rues sont bordées d'arbres, les maisons stylées, entourées de petits jardins. Eugène Istodor travaille pour le journal satirique Gatsavanchi, à mi-chemin entre le Canard enchaîné et Charlie Hebdo.
Est-ce qu'on peut dire que cette maison symbolise la corruption dans votre pays ?
On
peut, c'est un peu plus compliqué que ça. Certes, on peut dire ça, mais on peut dire que c'est le résultat palpable d'une collaboration entre le milieu politique de Roumanie et les hommes d'affaires véreux.
Practic vorbim de perioada din România banilor negri.
On parle de la Roumanie des années du marché noir et de l'argent sale. Ce monsieur, ce personnage Vântu, lui-même ne savait même pas la quantité énorme d'argent qu'il avait dans ses mains.
Donc on parle de l'argent cash, ça n'existait pas, des traces dans des comptes bancaires. Et on parle de sacs énormes avec du cash dedans. Et une partie de ces sacs ont été donc déposés dans la maison que vous voyez ici. Quand tu faisais des affaires avec lui, où il t'appelait pour que tu lui fasses des services, il mettait la main dans le sac et il te donnait du cash. Il ne regardait même pas combien il avait dans sa main pour te donner.
După revoluție a inventat un joc piramidal.
Tout de suite, au début des années 90, après la Révolution, il a eu une idée saugrenue comme ça, de faire un jeu piramidal. Et il faut savoir qu'au début des années 90, donc, la population dans son ensemble était vraiment très très pauvre et très démunie. Et donc il a eu comme idée de faire un jeu piramidal où il a promis aux gens, vous mettez un peu d'argent maintenant, moi je vous le garde, mais dans peu de temps, grâce à ce don, vous allez gagner 10 fois plus.
Am ființat cu acordul și numind
pour donner un semblant de crédibilité à ce jeu piramidal, il a ouvert des banques, justement pour que les gens savent, voilà, vous mettez vos fonds dans une banque, mais en fait, derrière, tout ça, c'était main dans la main avec des hauts responsables politiques de l'époque.
Il a été démasqué quand ?
Donc il a été démasqué quand le président Basescu est arrivé au pouvoir et donc notamment quand le parquet anticorruption a commencé à fonctionner. Donc c'est à peu près au début des années 2000.
Est-ce que vous avez une idée de la somme qu'il a détournée ?
On parle de sommes énormes pour la Roumanie, entre 20 et 40 millions de dollars, mais il faut tenir compte qu'on parle des 40 millions de dollars au début des années 90. Donc maintenant, la somme doit être beaucoup plus importante. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, où le salaire était quelque part vers les 20-30 dollars par mois, alors imaginez un peu l'écart avec les sommes véhiculées par ce monsieur.
Infernul există. Numele lui e colectiv.
Le 31 octobre 2015, un incendie se déclare dans une boîte de nuit de Bucarest, collective. Des feux d'artifice ont été tirés sans autorisation pendant un concert de rock. Le feu se propage en quelques secondes. Des dizaines de personnes se retrouvent prisonnières de cette boîte de nuit, située en contrebas. 64 personnes perdront la vie dans cette tragédie. Un an plus tard, une page Facebook est créée. Son nom, La corruption tue. La page existe toujours, c'est elle que les manifestants utilisent aujourd'hui pour se mobiliser, avec le hashtag « Résiste » devenu leur signe de ralliement.
Je m'appelle Milutza Fluierache, j'ai 32 ans. Je suis cartographe à Centre National de Cartographie et photographe de concert.
Donc là, en fait, ce sont des anciens entrepôts. Et là, c'est donc cette boîte de nuit qui a brûlé en 2015, c'était en
oui,
2015
2015.
Et vous étiez à l'intérieur?
Oui.
Vous avez été blessé?
J'ai été blessé, j'ai été hospitalisé pendant 42 jours, j'ai eu 25% de la surface du corps brûlé.
On dit que cette boîte de nuit collective n'était pas aux normes de sécurité?
Ils avaient une autorisation de fonctionnement de la part de la mairie du 4e arrondissement. Mais cette autorisation n'était pas valable pour l'organisation d'événements, juste pour un bar d'une capacité de 80 personnes. L'organisation de concerts était de la seule responsabilité des propriétaires.
Le soir du drame, il y avait combien de personnes à l'intérieur ?
Environ 400.
Alors que l'autorisation, c'était pour 80 personnes maximum ?
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que cet incendie, en fait, c'est le résultat de pots de vin qui ont été versés par le directeur de l'établissement ? Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que vous faites ce lien ?
C'est clair que le propriétaire n'a pas respecté la procédure légale de construction pour faire les modifications à la structure du bâtiment. Il y avait un seul accès quand parfois ils organisaient des concerts avec 700 personnes. Ils auraient dû prévoir plusieurs accès.
Vous soutenez le mouvement de contestation. Qu'est-ce que vous espérez de ce mouvement ?
Oui, je soutiens le mouvement de protestation parce que la principale revendication que défend la population est de ne plus avoir affaire à des hommes politiques corrompus. Le pourcentage de ces hommes est assez important au Parlement de Roumanie.
La classe politique s'est certes renouvelée depuis la chute du communisme, mais certaines pratiques, elles, perdurent. La Roumanie a beau faire partie des pays les plus pauvres de l'Union européenne, elle a affiché un taux de croissance de 4% l'an dernier. Parmi les secteurs en plein essor, l'immobilier. Les terrains dans le centre de la capitale roumaine sont très convoités. Attila Biro appartient à un réseau de journalistes d'investigation. Il nous reçoit dans le local de Rise Project, qui a révélé de nombreux scandales.
C'est notre site internet. Et l'histoire qu'on est en train de traiter s'appelle la ville souterraine. C'est un réseau composé de gens, des hommes d'affaires ou des politiques qui possèdent jusqu'à 200 000 mètres carrés dans le centre de Bucarest. C'est comme une machine à fabriquer de l'argent, parce que les terres ont été rétrocédées, ils ont acheté les droits de propriété pour une très faible somme d'argent, et en quelques mois seulement, ils ont reçu une offre et l'ont vendue pour plusieurs millions. L'une des personnes impliquées dans ce montage est un membre du Parlement européen qui a été ministre du transport en Roumanie. Et elle possédait 200 000 mètres carrés de terrain qu'elle a vendu pour près de 18 millions d'euros, alors qu'elle les avait achetés pour seulement 300 000 euros. Le pire dans cette histoire, c'est que les anciens propriétaires ont perdu leur titre de propriété à cause des communistes. Ils ont fait des actions en justice pendant des années et des années, mais ça n'a pas marché. La corruption des institutions était telle qu'ils n'ont pas conservé leurs droits. Ils ont été approchés par l'entourage de cette femme parlementaire qui leur a dit « Prenez cet argent et oubliez cette histoire. On va s'en occuper et au moins vous aurez l'argent. » En réalité, ils n'ont touché qu'une petite partie de l'argent. C'est vraiment une mauvaise affaire pour eux. Les institutions ont fonctionné pour ceux qui ont de l'argent ou qui font de la politique.
Est-ce qu'elle est en prison ?
Non. Elle est membre du Parlement européen. Elle n'est pas en prison. Non, pourquoi ? Elle a eu tout cet argent grâce à l'administration. Tout ce qu'elle a fait, c'est de faire des papiers. Elle a obtenu tous ces millions d'euros comme cela. Et ce n'est pas le seul cas parmi tous ceux sur lesquels on enquête aujourd'hui.
DNA, trois lettres pour Direction nationale anticorruption. À sa tête, Laura Kodroutsa Kevechi, devenue une icône pour les manifestants, qui voient en elle la madame propre roumaine. Il est vrai que son bilan, depuis sa nomination en 2013, a de quoi faire trembler toute la classe politique.
Ces dernières années, nous avons fait comparaître plus de 1200 personnes. Des personnes inculpées de corruption à plus ou moins haut niveau, des anciens premiers ministres, des ministres et anciens ministres, des secrétaires d'État, des sénateurs, des députés. On a renvoyé plus de 30 hauts responsables devant la justice. Cela montre l'efficacité de notre institution pour enquêter sur les faits de corruption. Mais cela montre aussi le niveau de corruption en Roumanie. C'est une corruption généralisée qui se manifeste dans presque tous les domaines. Nous n'enquêtons pas seulement sur des personnes qui ont des fonctions publiques. Dans certaines situations, on enquête sur des dirigeants de compagnies privées. Par exemple, pour un marché public, quand une entreprise paie un pot de vin pour gagner le contrat, on enquête et sur la personne qui verse le pot de vin et sur celle qui le reçoit. Nous sommes compétents pour les montants supérieurs à 10 000 euros.
Avec son équipe d'une centaine de procureurs, la chef du parquet national anticorruption, que l'on dit inflexible, est devenue le cauchemar des hommes politiques roumains. Pourtant, elle ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière. Les pressions qu'elle et son équipe subissent sont plus insidieuses.
La plus grande menace, entre guillemets, c'est la pression créée par les attaques publiques. À travers elles, on essaye de nous intimider, nous harceler, nous décrédibiliser. C'est la méthode la plus fréquente. Ce qui me motive, c'est ce qui motive tous mes collègues. On est une équipe. Tous, nous voulons vivre dans une autre Roumanie, plus propre, plus honnête. Notre objectif comme procureur, c'est d'enquêter sur les faits de corruption pour réussir, avec la société civile, à changer les mentalités et à contribuer par notre action à une Roumanie plus propre.
Dans le paysage politique roumain, dominé par le Parti social-démocrate, dont le chef Liviu Dragnea est aujourd'hui poursuivi pour une affaire d'emploi fictif, un nouveau parti a fait son apparition. L'Union sauvait la Roumanie. Lors des dernières législatives de décembre, l'USR avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption. C'est une franco-roumaine de 43 ans, mère de 4 enfants, Clotilde Armand, qui est vice-présidente de l'USR.
Une Française qui brandit le drapeau roumain, c'est inhabituel.
Mais je suis roumaine, donc je suis mariée avec un Roumain depuis 20 ans. Nous avons choisi d'habiter en Roumanie. Et donc, moi, j'épouse et mon Roumain et la cause roumaine. Et les protestes, on dit en roumain, les manifestations. Et il me semble que ce que nous faisons ici, c'est européen. D'abord, vous voyez, français, roumain, mais sachez quelque chose. Ici, en Roumanie, les gens aiment l'Europe, se sentent européens. C'est un pays profondément pro-européen. Peut-être un des grands pays les plus profondément européen de toute l'Europe. Ces manifestations, c'est aussi pour dire ça. On adhère aux valeurs de l'Europe. On veut une classe politique qui ne soit pas une classe politique du passé, mais une classe politique qui a compris que voilà, la Roumanie est maintenant a beaucoup changé. C'est un pays très développé avec une classe moyenne qui travaille, qui aspire à vivre dans un pays où ils sont respectés, où la démocratie existe. Ici, en plus, on est au milieu du secteur 1, des secteurs le plus riche de Roumanie. Les gens vivent bien, on construit une ville, une belle ville. Beaucoup de personnes ici sont, par exemple, du domaine de l'informatique. Les informaticiens ne quittent plus la Roumanie, ils restent travailler dans leur pays. Ça représente 7-10% du PIB roumain. La classe politique est restée en arrière. La Roumanie a beaucoup progressé. On ne veut plus de cette classe politique qui, encore plus par ses décrets, veut nous ramener en arrière, on veut autre chose. Il y a un an, nous avons créé un parti anti-système qui, lorsqu'il est à peine été-il créé, a conquis 30% de Bucarest. 6 mois plus tard, 9% du Parlement. Nous n'avons pas le pouvoir, puisque la majorité, c'est le Parti social-démocrate, mais nous sommes une force qui monte, qui compte. Et en effet, l'une des principales valeurs, c'était la lutte anticorruption, la transparence, la participation des citoyens à la vie politique, la dépolitisation de tout un tas de fonctions comme directeur d'hôpitaux, directeur des écoles qui étaient nommés politiquement et non pas par compétence. Nous voulons maintenant que notre pays se modernise au niveau de ses institutions publiques, après s'être modernisé au niveau de l'économie privée, si vous voulez. Et c'est ça ce que nous voulons faire. Tout cela est permis parce que maintenant, il y a cette moyenne classe qui a, si vous voulez, quelque part le temps de le faire. Lorsque les gens sont pauvres et qu'ils ont deux jobs, si vous voulez, qui travaillent du matin jusqu'au soir, ils n'ont pas le temps de souffler, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la nation. Disons, ils ont du mal à survivre eux-mêmes. Maintenant que la Roumanie a une classe moyenne qui existe dans toutes les grandes villes, ces gens-là n'acceptent plus d'être traités comme des esclaves par une classe politique de privilégiés.
Vous disiez, la Roumanie a beaucoup changé, mais il y a certaines vieilles pratiques qui perdurent, hein, notamment la corruption. C'est d'ailleurs pour cette raison que les gens sont dans la rue.
Mais non, il ne faut pas mettre le problème comme ça. C'est justement parce que la lutte contre la corruption a fait des progrès énormes. C'est-à-dire la corruption a énormément diminué. Les politiciens véreux sont en prison aujourd'hui. Les hommes d'affaires véreux sont en prison. Il y en a des centaines. La lutte contre la corruption a tellement gagné du terrain que la classe politique est dans son dernier sursaut pour revenir à ses anciens privilèges, si vous voulez. Mais non, la Roumanie aujourd'hui n'est plus un pays où les hommes politiques peuvent être corrompus en toute impunité. Non, il y a les remparts de la démocratie qui ont éliminé et qui sont en train de gagner cette bataille. On ne veut pas que la classe politique détruise tous les progrès qui ont été faits. Donc non, la Roumanie n'est pas un pays pourri par la corruption. Ce n'est plus le cas, c'est fini.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Corruption en Roumanie, Le peuple entre en résistance, reportage signé Valérie Crova, réalisé par Annie Brault. Nous sommes toujours ici en studio avec nos deux invités, l'historienne Catherine Durandin de l'INALCO et puis le chercheur à l'IFRI, Vivien Pertuzot. Avec peut-être une première question à vous, monsieur, puisque vous êtes spécialiste, disons, des questions européennes. On vient d'entendre à la fin cette manifestante qui est franco-roumaine et qui dit il y a des drapeaux, enfin c'est quelqu'un qu'on entendait avant dans le reportage de Valérie Crova, mais qui disait il y a des drapeaux européens dans les manifestations. Elle proclame l'attachement des Roumains à l'Europe. C'est vrai qu'il y avait cette dimension dans ces manifestations. Est-ce que la Roumanie suscite finalement l'admiration de ses voisins pour ce mouvement anticorruption? Comment est-elle jugée par les autres pays d'Europe pour ce qui s'est passé là depuis février?
Déjà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça fait 10 ans cette année que la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne. Donc c'est un jeune membre, c'est un jeune État membre de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose à avoir à l'esprit. La deuxième chose, c'est que c'est difficile de dire que la Roumanie est forcément considérée ou admirée par ses voisins, simplement parce que la Roumanie est un peu un État membre de seconde classe. La Roumanie ne fait pas partie de l'espace Schengen, à l'inverse de la quasi-totalité des États membres. Donc, elle n'est pas perçue tout à fait de la même manière que les autres États membres. Après, la corruption est un phénomène beaucoup plus fort en Roumanie qu'il ne l'est dans beaucoup d'autres pays. Et généralement, finalement, et peut-être à tort d'ailleurs, on met la Roumanie dans le même panier que la Bulgarie, simplement parce que les deux ne font pas partie de l'espace Schengen, les deux sont rentrés en même temps dans l'Union européenne et les deux connaissent des phénomènes de corruption.
Entre lesquels ils sont censés lutter tous les deux de façon assez différente. Je vais me tourner vers Catherine Durandin pour vous interroger, madame, sur finalement qu'est-ce qui compose ces grands cortèges de manifestants qu'a décrit Valérie et qu'elle a rencontrés. Est-ce que c'est cette jeunesse qu'on dit maintenant hyper connectée, tout se passe sur Facebook, enfin ce serait finalement une nouvelle Roumanie qui descend dans la rue, ou bien est-ce que c'est un mouvement qui a fédéré plusieurs générations?
Écoutez, avant de vous répondre, et c'est une belle question, je voudrais compléter ce que
bien
dit
sûr
mon collègue, à juste titre, enfin, sur la vision qu'on a de la Roumanie et de la Bulgarie. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'ils se disent « nous sommes Européens », mais souvent c'est « nous sommes Occidentaux ». Parce qu'il ne faut pas oublier que la Roumanie est un pays membre de l'OTAN et un pilier du transatlantisme. À l'heure actuelle, puisque l'ambassadeur des États-Unis vient de féliciter le gouvernement présent pour avoir augmenté les dépenses de défense. Donc, disons que c'est occidental et européen. Et puis, il faudrait quand même signaler que le Parti social-démocrate se permet de temps en temps de, je vais être très vulgaire, mais de cracher contre l'Europe. Ponta, qui est socialiste,
l'ancien premier ministre,
en 2012, Lorsqu'il a été convoqué à Bruxelles dans l'affaire qui l'opposait au président Basescu, lui, centriste, enfin centre-droit, a dit « mais qu'est-ce que les Européens viennent se mêler de nos affaires ?» Et ils ont tendance, dans des personnalités comme Dragnea ou le Premier ministre actuel, à de temps en temps se proclamer très souverainiste. Bon.
Oui, donc tout ça, c'est pour le Parti social-démocrate.
C'est pour le parti. Oui, oui. La population ne suit pas nécessairement le parti, même si elle a voté majoritairement pour lui au mois de décembre. Alors maintenant, votre question. Oui, c'est une grande question, une belle question. Là, je rejoindrai ce que disait la vice-présidente du parti Union pour le soutien de la Roumanie. C'est-à-dire que le mouvement actuel est un mouvement contre la corruption, mais bien au-delà. Parce que contre la corruption, ça fait quand même plusieurs années, notamment dans les procès qu'ont traîné un ancien premier ministre de l'ISCU, du président Ilescu, lui aussi socialiste, Nastase, en prison. On n'y croyait pas qu'une bête pareille, un baron pareil, allait réellement être en prison, passer du temps en prison. Donc je crois que la dynamique, elle est anti-corruption, mais avec deux thèmes annexes qui sont « Nous voulons rester en Roumanie ». Et on l'a entendu dans le reportage, cet homme de 42 ans qui dit « Je veux que mes enfants vivent en Roumanie ». Alors, pour deux raisons. Un, parce qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait que ce pays vive des exils successifs qui ont été douloureux pendant la période communiste. Et deux, où aller ? Je veux dire, à l'heure actuelle, les pays européens, si vous voulez, c'est pas tellement tentant. Les États-Unis, Trump non plus, il resterait l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bon, donc ça pose quand même problème. Où aller ? On va pas aller non plus en Égypte ou en Arabie Saoudite. Donc il y a un vrai problème là. Et bien, si on veut rester, il faut changer. Et cette génération des 30-40 ans est prête réellement à faire bouger les choses. Donc c'est un espoir. Ensuite, ce contre quoi ils se mobilisent, c'est contre un style de pouvoir. Parce que ceux qu'on appelle les garçons, ces garçons-là, c'est-à-dire les dirigeants actuels, sont d'une arrogance, ont un sentiment d'impunité tel qu'ils pensent pouvoir faire n'importe quoi. Mmh. C'est-à-dire faire passer une ordonnance en fin de soirée pour arrêter...
Ce fameux 31 janvier.
Se dépénaliser eux-mêmes, se protéger eux-mêmes. Monsieur Dragnea, on passe l'éponge. Voilà, il est dépénalisé.
Monsieur Dragnea, qui est le président du parti.
Le président du parti, le président du Sénat. Et ça n'a pas marché. Alors, la question que je me pose, c'est, sont-ils stupides ou ont-ils un tel cynisme qu'ils ne voient plus le réel qui les entoure ? Ce qui participerait de la stupidité. Dans la mesure où ils pouvaient faire passer une loi, elle aurait été votée, leur loi. Ils ont la majorité au Parlement. Et c'est ce qu'ils font maintenant. Ils vont faire un projet de loi. Et il y a les socialistes, et il y a les libéraux d'une partie ALDE qui leur sont associés, et il y a les Hongrois. Tout ça, ça vote, la loi va passer.
D'où peut-être encore les mobilisations citoyennes. Une question de Valérie Crovin.
Oui, on l'entend, Clotilde Armand, à la fin, parle de l'éclosion d'une classe moyenne. En quoi cette éclosion participe à l'émergence de ce réveil citoyen, à votre avis ?
Je crois qu'il y a le développement de tout ce qui est dans l'ordre de la culture, dans l'ordre de la protection de la nature, les mouvements écologiques, les mouvements dans les milieux des architectes, qui sont extrêmement nombreux dans le parti Union Sauvons la Roumanie, qui a été lié à la volonté de protéger le patrimoine et aussi de lutter contre cet affairisme dans le domaine
de l'immobilier.
On peut peut-être
raconter, enfin je vous coupe, mais juste pour raconter d'où vient ce petit parti, parce qu'il est tout récent et justement vous parliez de protéger le patrimoine, ils sont connus pour avoir d'abord lutté à Bucarest même, non ?
Absolument, oui. J'en parlais il y a un an avec une amie architecte à qui je disais, mais enfin avez-vous un parti qui aurait une culture, disons une culture de gauche ou une culture citoyenne, progressiste, puisque c'est le mot qu'il faut employer maintenant, et elle m'a parlé de Dan Nikouchor, qui est donc le président, lui, de ce parti, donc le tilde qu'on a écouté, est vice-présidente. Et elle m'a dit, il y a un certain nombre de mathématiciens, d'architectes, d'ingénieurs, qui, pour certains, ont été éduqués à l'étranger et qui rentrent en Roumanie. Donc ça, c'est un point intéressant et positif. Et qui veulent vraiment travailler. C'est très patriotique en même temps, hein. Et l'hymne national chanté à côté du drapeau européen, etc. Mais il y a quelque chose de patriote qui est « j'aime ma Roumanie » et j'en ai assez qu'elle appartienne à ces gens-là qui nous la détruisent.
Vivien Pertuso, on voit quand même que la lutte anticorruption, même si ce n'est pas le seul motif, comme vient de l'expliquer très bien Catherine Durandin, est au centre de ce soulèvement populaire. Est-ce que c'est, d'après vous, dû beaucoup à l'influence de l'Europe ? Parce que c'est quand même l'une des obligations qu'on a faites à la Roumanie en lui disant « si vous ne faites pas des efforts en la matière, vous n'entrerez jamais dans l'Union européenne ».
Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est un petit peu d'où vient cette emphase que l'Union européenne a faite sur la lutte contre la corruption. Et là, il faut revenir un petit peu au processus d'adhésion de tous les nouveaux entrants dans les années 2000. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés en 2004, globalement, la lutte anticorruption faisait partie du package qu'ils devaient mettre en place, mais c'était pas quelque chose de fondamental. Alors que pour la Roumanie et pour la Bulgarie, c'était vraiment extrêmement central.
Parce que c'était des pays qui étaient en retard.
C'était des pays qui étaient considérés comme en retard. Il y a quelque chose qui est intéressant et souvent oublié, c'est que finalement, tous les autres pays, on leur avait dit, vous rentrerez à telle date. En l'occurrence, en 2004, 1er janvier 2004, vous rentrerez à cette date. Alors que pour la Bulgarie et pour la Roumanie, on avait mis une condition. Si vous ne remplissez pas toutes les conditions, eh bien, nous retarderons votre accession à l'Union européenne. Il y avait une conditionnalité qui était beaucoup plus forte. Néanmoins, les Européens ont jugé que les Roumains et les Bulgares, puisque les deux sont rentrés en même temps, étaient prêts. Cela étant, parce que la Roumanie et la Bulgarie étaient néanmoins perçues comme faibles sur la question de la lutte contre la corruption, effectivement, la Commission européenne a mis en place ce mécanisme de coopération et de vérification pour justement vérifier que, eh bien, la Bulgarie et la Roumanie, eh bien, tenaient leur parole. Et tous les ans, il y a un rapport qui est publié par la Commission et la Roumanie a fait énormément d'efforts. Effectivement, ça a été souligné. La Commission européenne le reconnaît, à peu près toutes les institutions plus ou moins indépendantes le reconnaissent également. La Roumanie a fait énormément d'efforts pour lutter contre la corruption, aussi bien à haut niveau que la corruption beaucoup plus commune. Parce que ce sont deux phénomènes qui sont tout aussi marqués dans ces pays-là. Et est-ce que aujourd'hui ce phénomène toutes ces manifestations sont en partie dues à l'Europe? Peut-être. Effectivement, il y a une très forte attente de la population roumaine envers les institutions européennes pour faire pression sur les institutions nationales, pour que ces institutions nationales se réforment et fassent en sorte que le pays change.
Alors si on parle corruption, forcément, il faut parler de cette fameuse direction nationale anticorruption qu'évoquaient les manifestants tout à l'heure, Valérie. Donc la DNA, avec la procureure qui est à sa tête, Laura Codruța Kövesi, j'espère que je prononce bien son nom, ou Kövesi, on n'a pas su quelle était la bonne prononciation. En tout cas, on va dire Laura parce que c'est plus simple pour nous. C'est quand même une sacrée personnalité, Catherine Durandin. Et alors, elle se targue effectivement d'avoir fait emprisonner. Moi, je donnais des chiffres. Je crois qu'il y a plus de 300 personnes sont en prison, mais en tout cas, plus de 800 ont été condamnés rien que l'année dernière.
Il y a un très, très grand nombre de dossiers, effectivement, qui sont passés entre ses mains et qui, de ses mains, sont passés avec des amendes ou avec des années de prison. Il y a un site extraordinaire d'ailleurs, Direction nationale anticorruption, ça a été fondé en 2002. Et on peut aller sur le site de la DNA et regarder chaque mois combien de personnes ont été enquêtées, dans quel domaine. Alors il y a un douanier, un inspecteur de police, enfin ça touche tous les niveaux, politique, petite corruption, grande corruption. Cette femme a une carrière extrêmement brillante, elle vient d'un milieu juridique, son père était déjà procureur, et elle a fait des études de droit à Cluj, donc elle est d'origine transylvaine, dans un milieu plutôt hongrois. Elle avait eu un mariage avec un hongrois de Transylvanie. C'est une femme jeune, encore. Elle a 43 ans, quelque chose comme ça. Et elle, je dirais, elle tient la route sans manifestation médiatique insensée, mais les médias, tout de même, lui courent après, et pas toujours de manière positive. Ce que je redoute à l'heure actuelle, c'est un, que la loi passe par le Parlement avec une dépénalisation d'un certain seuil de crimes.
Parce que ça, c'est la tentative du gouvernement.
C'est la tentative du gouvernement, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait dès le départ. Ça passait.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure,
bon.
Oui.
Ils se surestiment. Bon, deux, il ne faudrait pas les sous-estimer dans la mesure où ils peuvent essayer de déstabiliser, décrédibiliser Laura Kövesi par des rumeurs, des accusations, elle aurait plagié je ne sais quoi dans un rapport de thèse ou dans sa thèse. Et deux, et c'est plus grave parce que c'est fondamental et ça touche à l'institutionnel, le président de la Cour de cassation est un membre lourd du Parti Socialiste, proche du chef Dragnea du Parti Socialiste. Et il commence à faire savoir que Madame Kövesi, c'est-à-dire la Direction nationale anticorruption, outrepasse ses fonctions lorsqu'elle se mêle de traités ou d'être intervenant d'une certaine manière, puisqu'on l'appelle dans les manifestations pour qu'elle vienne, voilà. Qu'il y a donc, elle outrepasse ses fonctions et que la justice ne doit pas être liée aux politiques. Pour finir sur cette femme, elle a été nommée par un président centre droit et elle a été confirmée. Bazescu, elle a été confirmée par Ioannis, c'est-à-dire
oui.
un président
oui,
sans étiquette
mais centriste. Et elle a amené des hommes extrêmement
absolument. Et elle est là, les pauvres, ouais. S'ils veulent s'en débarrasser, elle est là encore pour 2 ans, je pense.
Oui. J'allais passer la parole à Valérie Crova quand même sur cette question de la corruption parce que c'est manifeste.
Oui, et la question que je voudrais vous poser, c'est cette classe politique roumaine, est-ce qu'on peut, vous pouvez essayer de la qualifier, en tout cas, est-ce qu'on peut parler encore d'une nomenclature roumaine aujourd'hui ?
Dans l'esprit, oui. Dans la culture mentale, dans les mentalités, oui. Dans la réalité physique, pour certains qui ont 65 ans et qui ne sont pas prêts de mourir, oui, et certains d'entre eux sont des députés socialistes au Parlement européen.
Bon. Vous voulez dire directement issus des proches de Ceausescu
Directement issus même du coup d'État de 1989. L'un était à Moscou en décembre 89. Il m'a expliqué que c'était pour faire ses courses de Noël. C'est vrai que c'était urgent. Bref, ce sont des gens qui ont un cynisme radical par rapport à ce qu'ils appellent une langue de bois démocratique. Et qui ont une mentalité de dialectique léniniste. S'il faut faire une pause, on fait une pause. S'il faut s'engouffrer dans une fenêtre d'opportunité, on s'y engouffre. Mais là, on va là où il y a le plus de pouvoir et le plus de fric. C'est dit en termes clairs. Ces gens sont nés en 1950. Et ils ont été formés dans la direction de l'Académie de formation des cadres du parti, qui a formé de très grands économistes, qui se sont mis à la privatisation, etc., et un style de vie même, qui est un style de vie américanisé. Certains d'entre eux portent des casquettes, des trucs de jogging le dimanche. Ils ont fait ça très vite dans les années 90. Donc, ceux-là sont redoutables. Et ils ont leurs clients. Ils ont leurs poulains. Quelqu'un comme Ponta, par exemple, qui est le poulain de Nastase, qui lui-même était le poulain de
Iliescu. Ce sont des dynasties, quoi, presque.
Des dynasties, ouais. Oui. Mmh. Des clientèles, une sorte de nomenclature mafieuse.
Vivien Pertuzot, je voulais revenir avec vous quand même sur cette question de corruption pour voir à quel point la lutte anticorruption en Roumanie est ou n'est pas exceptionnelle. Parce qu'on cite donc ce parquet, on va dire, ce parquet anticorruption mené par cette dame, Laura Kövesi, avec des chiffres absolument hallucinants. Donc on a donné le nombre de personnes qui ont été condamnées l'année dernière, mais ça correspond par exemple, elle disait donc dans un rapport tout récent que l'État roumain, grâce à elle, avait récupéré quand même 667 millions d'euros en un an, l'année dernière, 72% de plus qu'en 2015. Donc, qu'il y a 80% ou 90% même de condamnations quand elle commence à ouvrir une enquête, sont des chiffres qui ont l'air effectivement formidables. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où on lutte de la même manière contre la corruption ? Enfin, nous, moi, ça me paraît quand même assez...
Dans le monde, oui, j'imagine.
Non, mais enfin, je veux dire en Europe. Restons en Europe.
Restons en Europe. En Europe, à cette échelle-là, non. À cette échelle-là, clairement, non. Parce que il y a probablement pas de pays qui connaissent le même phénomène de corruption aussi endémique.
On parlait d'Italie tout à l'heure hors micro avec Valérie Crova.
Oui, non, mais après, en fait, ouais. La situation est la suivante. Soit vous avez des pays qui effectivement peuvent être mis plus ou moins sous le joug des institutions européennes, et c'est véritablement le cas de la Roumanie et de la Bulgarie. Et à ce moment-là, la Commission est en position de force presque par rapport à ces pays-là, et donc peut imposer avec la carotte de faites respecter l'état de droit, réformez vos institutions, en échange de quoi vous aurez accès à l'espace Schengen. Ce qui est un élément assez important. Ça c'est un élément qui peut peser dans la balance pour ces pays-là. D'autres pays, effectivement, le phénomène de corruption, enfin, il existe dans tous les pays européens, il faut pas se leurrer, il suffit de regarder le rapport de Transparency International tous les ans et on se rend compte que aucun pays européen, peut-être à l'exception des pays nordiques, ne connaît pas le phénomène de corruption. Le problème, c'est que ce sont des phénomènes qui sont établi depuis extrêmement longtemps, sur lequel l'Union européenne a beaucoup moins de prise, et qui se font de manière peut-être plus élaborée, plus sophistiquée, et donc moins condamnable de manière aussi rapide. Mais ce qui est très important, juste pour finir, ce qui est vraiment très important d'avoir à l'esprit, c'est que aucun pays n'a ce phénomène. Enfin là, on est sur une autre échelle.
Aucun quand pays même, n'a une corruption d'une telle échelle, vous voulez dire, ou une lutte anticorruption d'une telle échelle?
Les deux. Non mais c'est vrai qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, là pour le coup, effectivement, je pense que s'il n'y avait pas une pression européenne, la Roumanie n'aurait probablement pas mis ce parquet anticorruption en place. Tous les pays européens.
Justement, la Bulgarie, juste d'un mot, ils en sont où de leur lutte anticorruption? Très en retard. D'accord.
Ils sont en retard sur la Roumanie.
Ah oui, ils sont en retard sur la Roumanie.
Catherine Durandin, pour revenir quand même à la scène politique, disons, roumaine, là on parle beaucoup du Parti Social-Démocrate qui a remporté les élections, qui était déjà là au pouvoir un an avant et qui a dû partir après cet incendie dramatique dans la discothèque dont a parlé Valérie Crova. Il n'y a pas quand même une opposition, bon, le président justement, lui, il n'est pas du même parti, il n'y a pas quand même une opposition capable de, bah, je ne sais pas, de relever un peu tout ça, d'être une véritable force d'alternance, ou est-ce qu'il faut regarder du côté de la société civile?
Un des grands problèmes, justement, c'est que par rapport à ces demandes de la société civile, mis à part l'Union pour sauver la Roumanie, qui est quand même un phénomène très urbain.
Et puis très récent.
Il n'y a pas de réponse. Et le grave aussi, ce qui s'est produit dans ce pays, c'est que d'une certaine manière, la culture de gauche, parce que le Parti Socialiste Démocrate n'est pas un parti de gauche, c'est un parti démagogique, c'est quand même pas la même chose, était quasiment interdite, sauf parce que on aurait été accusé d'être communiste. Bon, il fallait absolument effacer tout ce qui relevait du temps du communisme, du temps mauvais. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas véritablement de réponse. C'est pour ça que la rue se sent désarmée, que la rue aussi n'est pas violente, parce que qui va récupérer cette violence? Le Parti Socialiste, devant une population apeurée. On a déjà vu ça. On a vu Iliescu en 1990 envoyer les mineurs à Bucarest pour déloger les étudiants et les manifestants de la place de l'université, qui était complètement pacifique, parce que la population, même à Bucarest, trouvait que ces étudiants étaient pornographes, que c'était sale, qu'on n'avait jamais vu ça à Bucarest. Donc, le Parti Socialiste peut très bien jouer sur l'inquiétude par rapport à des manifs permanente. Maintenant, c'est un vrai problème, hein, ce manque d'offres politiques. Et dernièrement, j'en parlais à des amis qui travaillent à la faculté de sciences politiques dans la section francophone de sciences politiques à Bucarest, et qui m'expliquaient que non, ils ne votaient pas, parce qu'ils n'avaient pas pour qui voter. Bon, c'était avant la création du Parti Union pour le salut, enfin le sauver
SRU, la Roumanie.
Voilà. On est vraiment là devant une situation sans doute provisoire, mais qui
est quand même très compliqué,
qui sera long de dépasser. À propos de corruption et à propos de chiffres, je voulais simplement dire qu'il y a un pays qui est intéressant, mais qui n'est pas un membre de l'Union européenne, qui est la Moldavie.
Oui. Alors, on en parlera au cours de notre émission. On va plutôt laisser la parole à Valérie Crova pour une question.
Oui, il faut peut-être préciser que, comme vous le disiez, c'est un mouvement qui est assez urbain. Ces manifestations se passent essentiellement dans les villes, parce que dans les campagnes, on soutient le Parti Social-Démocrate dans la majorité.
Catherine Durandin.
Si on regarde une carte sur le vote rouge, ce sont les zones dévastées, enfin pauvres. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement, de croissance 4%. C'est un très beau chiffre. Mais l'enrichissement des pauvres ne suit pas. Il y a au contraire, il y a même une paupérisation d'une certaine partie de la population qui se trouve dans des endroits déstructurés. Mais je ne parle pas d'endroits très reculés. Moi, je connais bien un village, Lipia, qui est à 70 km de Bucarest. C'est la grande pauvreté. Alors d'un côté, il y a des bourgeois de Bucarest qui ont acheté des maisons de campagne, qui les ont retapées. Et de l'autre, à côté, comme voisins, il y a des gens qui sont manutentionnaires à l'aéroport d'Otopen. Et des femmes qui élèvent leurs enfants, un cochon, une chèvre, et qui soignent leur belle-mère diabétique, qui est en train de mourir à 55 ans parce qu'elle a été mal soignée, dans une misère réelle, et qui m'explique chaque été que c'était mieux avant. La jeune femme avec ses deux filles me dit « Regarde, mes filles sont devant la télévision. Moi, à leur âge, j'étais dans un camp de pionniers, j'étais au bord de la mer. Je ne peux pas envoyer mes filles. » Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très asymétrique. Et le mouvement enchanteur, et c'est bien qu'il existe, il est tout de même très urbain. Je dirais pas seulement universitaire, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas 20 ans dans ces mouvements de manifestation.
Il y a quand même eu 500 000 personnes.
Absolument. Et des familles qui sont venues avec leurs petits gamins, et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée de non-violence.
Oui. Et d'ailleurs, moi, j'avais lu dans un article que les ministres qui voulaient un peu réprimer tout ça disaient qu'il était interdit de faire manifester les enfants et qu'il fallait faire une enquête sur les parents qui osaient amener les petits-enfants dans les manifestations à Bucarest et ailleurs. Une dernière peut-être question pour vous, Vivien Pertuzot. En fait, sur la question de savoir si cette jeunesse roumaine représente bien la jeunesse européenne, parce qu'on a dit que ces manifestations étaient aussi hyper connectées, enfin l'un de leurs, pas de leurs slogans, mais de, en tout cas de leurs slogans visuels, si on peut dire, c'était ces téléphones allumés dans la nuit, le 4 février, par centaines de milliers. Et on dit aussi que, que les réseaux sociaux jouent un rôle absolument crucial dans ce mouvement, et que ça les immunise contre les médias classiques.
Alors effectivement, c'est au niveau de l'Union européenne, c'est la première fois véritablement qu'on a ce type de manifestation aussi connectée. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Égypte, on l'a vu un peu partout, mais au sein de l'Union européenne, c'est la première fois qu'on a avec cette ampleur-là, une manifestation connectée, si je puis dire, mais qui finalement reflète le temps dans lequel on vit. Est-ce que c'est la première d'une longue série? Peut-être.
Est-ce qu'on a envie de renverser d'autres gouvernements? On verra.
Peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, il est très probable que une jeunesse qui est beaucoup plus connectée, qui connaît donc de fait beaucoup plus l'extérieur, a conscience que son pays a du retard, que son pays a des déficiences, a des défauts, et que ces défauts peuvent être corrigés, notamment par rapport à leurs voisins européens.
Catherine Durandin, ce sera le mot de la fin. Vous êtes optimiste quand même sur la suite de ce mouvement ?
Je suis pas optimiste sur l'évolution de la situation européenne aujourd'hui, mais je suis tout de même très émue, et je juge très important ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Roumanie. Je voudrais souligner, enfin peut-être des déficiences, mais aussi des productions culturelles de très très grands talents, comme les films de Mungiu, qui parlent de la corruption et du désenchantement aussi de cette société.
La corruption quotidienne, là, pour la coup, dans les
films,
hôpitaux,
le baccalauréat,
ou dans le système scolaire, enfin c'est vrai, ou universitaire. Et c'est sûr qu'il y aurait plein de choses à dire. Il faut aller voir les films de Mungiu.
D'une part, d'autre part, pour finir, il y a eu quand même des manifestations de solidarité à Paris, et notamment de la part des étudiants des langues zo, soit parce qu'ils sont d'origine roumaine, soit parce qu'ils ont leurs collègues français, qui sont allés là où tout le monde va, au Trocadéro.
Merci beaucoup Catherine Durandin, Vivien Pertuzot, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Corruption en Roumanie. Le peuple entre en résistance. Valérie Crova, vous avez signé ce magazine, vous vouliez juste remercier deux personnes.
Oui, je voulais remercier tout d'abord Paul Kosygian, qui pour son aide précieuse, et puis notre collègue Bruno Cadenne, à qui on souhaite un prompt rétablissement.
On lui dédie cette émission, bien sûr, à la technique ce soir, Élise Le, réalisation Annie Bro. Vous verrez écouter cette émission et puis la podcaster également et la commenter sur notre site franceculture.fr.